se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Soyez les bienvenus dans Estelle Midi. Vous êtes sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23. Et on est ravis d'être avec vous jusqu'à 15h. On sera ravis également de vous entendre au 32-16 ou de vous lire sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. Autour de la table dans l'émission aujourd'hui, il y a Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Il est là quasiment tous les jours, donc il faudra s'y faire.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Pierre-Edouard Magnan, notre syndicaliste préféré. Ça va Pierre-Edouard?
Ça va très bien.
Et puis Fred Hermel, journaliste RMC. Salut Fred.
Bonjour Estelle, bonjour les copains.
Au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, 52% des Français favorables à l'installation de réfugiés en zone rurale. C'est ce que souhaite également Emmanuel Macron. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous nous dites tout ça au 32-16. À midi et demi, télésiège ralenti, forfait plus cher à cause de la flambée des prix de l'énergie. Manque de neige, faut-il en finir avec les sports d'hiver? À 13h, les trottinettes électriques interdites aux moins de 18 ans à Lyon. Faut-il faire la même chose partout en France? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et Stéphane qui nous donnera des applis pour faire des économies d'énergie. Vous verrez, ça marche très très bien. À 14h, un quart de la population mondiale majeure n'a pas d'enfant. Mais peut-on être heureux sans progéniture? On attend bien sûr vos avis au 32-16. Et puis dites-nous si par exemple c'était un souhait pour vous de ne jamais avoir d'enfant. On vous attend également sur l'application RMC. Et puis on vous fait gagner un très beau cadeau aujourd'hui dans l'émission.
Exactement, à quelques heures du match France-Autriche, il y a deux mois du début de la Coupe du Monde de football, toute la journée, RMC et Intersport vous offrent le tout nouveau maillot de l'équipe de France pour supporter les Bleus. Vous envoyez bleu au singulier par SMS au 732-16. Bleu par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 5, vous êtes sur RMC et on va démarrer tout de suite avec le sondage du jour. C'est celui de l'Institut CSA qui révèle que 52% des Français sont favorables à l'installation d'étrangers en zone rurale. Une courte majorité donc, et c'était d'ailleurs l'une des propositions d'Emmanuel Macron il y a quelques jours pour favoriser l'accueil des réfugiés, Rémi.
Exactement, 52% des personnes interrogées favorables à l'idée, 48% opposées. Tu l'as dit Estelle, et sans surprise, c'est à droite et à l'extrême droite que l'idée passe le moins. 70% des partisans des Républicains sont opposés à la venue de réfugiés dans les zones moins densément peuplées de France. 88% y sont opposés au Rassemblement National. 97% chez les partisans de Reconquête d'Éric Zemmour. Même défiance chez les habitants.
C'est bizarre.
Qui seraient directement concernés.
Mais ils les veulent où?
Ailleurs qu'en France. Même défiance de la part des habitants qui seraient directement concernés par cette mesure, c'est-à-dire ceux qui habitent les zones rurales concernées. Alors là aussi, hein, ça se joue un peu, mais c'est l'inverse de la population générale, c'est-à-dire que 52% des habitants des zones rurales sont opposés à ce projet, un projet défendu par Emmanuel Macron il y a encore quelques jours. L'objectif est double. D'une part, cesser de concentrer les réfugiés dans les grandes zones urbaines, notamment en Île-de-France. Et d'autre part, redynamiser des zones en perte de vitesse, faute de population. Les étrangers éligibles seraient ceux qui possèdent un titre de séjour et donc le statut de réfugié mis en œuvre dès le début de l'année prochaine au travers du projet de loi sur l'asile et l'immigration.
Alors, pour ou contre l'accueil des réfugiés en zone rurale? Je vais commencer avec vous, Pierre-Edouard Magnan.
Alors, contre sur le principe de l'obligation de dire on va installer des étrangers dans telle ou telle zone. Y compris parce que, pour bien connaître, avec des casquettes associatives, notamment le secteur de la Réunion, je ne vous cache pas que ça a immédiatement rappelé des souvenirs un peu compliqués, notamment à nos amis réunionnais, parce que je rappelle dans les années 60 jusqu'au début des années 70, un certain Michel Debré, qui n'était plus que député à l'époque, n'avait rien trouvé de mieux à faire que d'aller, alors, les Réunionnais d'ailleurs eux disent enlever, je leur laisse la paternité du mot, en tout cas de déplacer brutalement des enfants de la Réunion pour les mettre dans des familles. Alors c'était des enfants dans des familles, notamment dans la Creuse, et le sujet, et d'ailleurs le sujet n'est toujours pas réglé, entre parenthèses. Là évidemment on est sur des familles de réfugiés, donc on n'est pas sur des enfants qu'on enlève à leurs parents. Je fais évidemment la nuance. Cela dit, je vous cache pas que chez certaines personnes, y compris français, les Réunionnais sont des Français, ça fait des échos qui sont un peu douloureux. Après, si je voulais faire du cynisme à tout craint, je vous dirais que comme il y a une minorité de population rurale en France, je suis pas étonné qu'il y ait une courte majorité pour dire qu'ils sont pour, puisque Monsieur Macron est en train d'inaugurer des éoliennes. Je précise que je fais du troisième degré, mais les étrangers, c'est comme les éoliennes, on en veut bien, mais pas chez nous. Évidemment, vous aurez compris que c'est pas moi qui parle. Ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant, donc je le précise. Mais effectivement, après, ce que ça révèle, et là peut-être de manière un petit peu plus large et plus intéressante, c'est que nous sommes, même si la France est le pays avec le taux de reproduction démographique le plus élevé, il est quand même insuffisant en donnant de population. Il y a un sujet plus global, y compris à l'échelle européenne, et pas uniquement en France, sur le besoin de population. Nous sommes en Europe en déficit démographique, donc nous allons avoir besoin d'organiser une immigration, y compris si on veut garder le même niveau de vie économique. J'aime bien quand je dis ça, personne ne croit et tout le monde va hurler à son téléphone, mais on a besoin des immigrés. Après, on peut débattre de la manière.
Surtout dans les zones rurales, parce qu'après, vous avez des grandes villes en France, il y a plus trop de monde.
Donc derrière, oui, mais je pense que le système de l'obligation, aussi bien vis-à-vis des personnes que vis-à-vis des populations où on va installer les gens, alors sur pareil, je vais être aussi taquin, si on met des réfugiés ukrainiens, il n'y aura pas de problème. Non, mais parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si c'est des réfugiés ukrainiens, il n'y aura pas de problème. Si on commence à aller chercher des gens dans le Maghreb ou dans l'Afrique Nord, vous allez voir que tout de suite, ça va.
Tu vas pas les chercher, c'est eux qui arrivent. Je suis d'accord
avec toi, mais je vois bien les réticences qu'il va y avoir. Après, il faut organiser. Et effectivement, au lieu d'entasser les gens dans des cages à lapins en banlieue, on est mieux effectivement de les installer où il y a de la place. Ce que je veux dire, c'est que
et
le système de dire.
Mieux les intégrer, en fait.
Exactement, pour organiser une immigration dont fondamentalement nous avons besoin. Même si les sondages le traduisent moyennement. Évidemment, plus on va à droite, je suis pas très étonné, les habitants d'Éric Zemmour sont à 97% contre. Je dirais même les 3% qui sont pour m'intéressent.
Mais si justement ces réfugiés travaillent, après ils ont des enfants, ils les mettent à l'école, finalement c'est gagnant-gagnant, Fred Hermel.
Ah, dans cette perspective-là, oui. Alors comment avoir une réflexion sur un sujet aussi touchy, comme diraient les Anglais, sans apparaître dans la liste des fascistes?
Pourquoi c'est touchy?
Voilà. Ah bah parce que rapidement, la droite, l'extrême droite, etc. D'avoir une réflexion sur l'immigration dans ce pays, automatiquement on peut être vite classé d'extrême droite. Si c'est pour mettre des gens qui ne travaillent pas et qui vivent des aides, plutôt de les mettre en ville, on les met à la campagne, non. Si c'est pour amener des bras à l'agriculture, parce qu'il y a un gros problème de couverture des offres d'emploi dans l'agriculture de France.
Si le réfugié syrien était médecin chez lui, tu vas pas le faire travailler au champ. Enfin, je veux dire,
à un moment, c'est pas la carte, Estelle, quoi. Quand t'es accueilli dans un pays,
autant faire quelque chose qui correspond à ce qui.
Attends,
je peux terminer. C'est vrai. Quand t'es accueilli dans un pays, quand on t'offre une des aides sociales, un travail, tu vas quand même plutôt essayer d'accepter le travail. Parce que alors selon mes critères à moi, on accueille les gens qui peuvent travailler dans si on les envoie à la campagne, c'est pour travailler.
On va leur offrir, comme tu dis entre guillemets, un travail dont les Français ne veulent pas, sinon ce travail serait pourvu.
Bah oui.
D'accord. Bon, c'est pas non plus un cadeau, quoi, tu vois.
Excuse-moi, quand tu es accueilli en France, c'est un cadeau d'être accueilli en France. Le pays avec le plus d'aide au monde, c'est un cadeau d'être accueilli en France. Pardonne-moi de le croire.
Je rappelle qu'à moins de 5 ans de présence sur le territoire en situation régulière, par exemple, on n'a pas le droit au RSA.
Enfin,
on vient pas pour être RSA, on vient pour travailler.
Qui bénéficierait de toutes les aides, ça n'est pas la réalité.
Si on lui donne du travail. Il vient parce qu'il fuit une situation politique instable dans son pays.
On offre en France un travail à la campagne.
Ce que gêne avec Fred, c'est qu'il dit qu'il faut pas tomber dans la caricature, mais il tombe dans la caricature.
Pourquoi?
Est-ce que je peux argumenter? Deux secondes.
Si on veut développer, si on veut développer les zones rurales, c'est pas avec des gens qui ne font rien. C'est avec des gens qui travaillent, on est d'accord.
Je pense qu'il s'agit d'une bonne façon de maîtriser une immigration choisie. Parce qu'évidemment, on ne parle pas de l'immigration clandestine. On est d'accord, les gens qui sont là de façon irrégulière n'ont rien à foutre sur le territoire français, il faut les renvoyer et c'est un autre débat.
T'es un fasciste.
Pour ceux qui sont en l'espèce soit ressortissants de pays dont ils sont réfugiés politiques ou ils ont un droit de travail, je trouve que plutôt que de les mettre dans des quartiers où il y a 70% de personnes immigrées, autant les mettre de façon plus intelligente sur le territoire français. Le seul problème, d'abord, pourquoi? Parce que ça a plusieurs vertus. Intégration par le travail, comme tu as dit, à la campagne, il y a du boulot, mais y compris au manque de médecins. C'est-à-dire que le médecin syrien, si on arrive à lui faire une équivalence, il peut aider à faire qu'il y ait moins de déserts médicaux. Intégration par la langue aussi, parce que comme le disait très justement Estelle, ça fera des enfants dans des écoles où il y a de moins en moins de gens dans les écoles et dans les classes avec des
des fermetures de classes. Ça, c'est le premier point. Il faut, en revanche, que ça s'accompagne de pédagogie. Pourquoi ? Parce que, et tu l'as bien dit au tout début de ton propos, avant de tomber dans la caricature, on a peur de l'étranger. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, quand quelqu'un était natif d'un village à plus de 30 kilomètres de chez soi, on considérait déjà, quand il revenait dans le village, que c'était un étranger. C'est Donc, vrai. On a peur
c'est
de celui qui
est
à 30 kilomètres, on a peur de celui qui vient d'un autre département, on a peur de celui qui vient d'une autre région, et donc on a peur aussi de celui qui vient de l'étranger. Donc, ça doit s'accompagner évidemment d'une pédagogie. Je noterai quand même, et tu disais, avant, encore une fois, de tomber dans la caricature,
j'ai dit un truc intéressant
à Calac. À Calac, les gens qui ont manifesté contre, ils s'étaient à l'appel de reconquête. Donc, c'est pas non plus complètement innocent. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Il n'y avait pas que ça. Non, non, là, tu peux pas
c'était à l'appel de reconquête.
Stop. Juste, Thierry, je veux dire, on a fait le sujet. Il y a des gens qui étaient contre, et c'était pas forcément.
Oui, mais
je veux dire, des
reconquête
fans de Zemmour
a appelé. Reconquête
est appelé à une manif, certes, mais tu avais le maire, voilà. Il a reçu des centaines de lettres d'habitants qui n'étaient pas contents. Ils votent pas tous Éric Zemmour.
C'est factuel.
Voilà.
L'appel à la manifestation était lancé par Reconquête.
Après, c'est un peu ce que dit Fred, c'est-à-dire que si t'es contre, on te dit tout de suite, tu votes Éric Zemmour, tu votes Marine Le Pen, etc. Tu peux.
Mais il faut
contre.
Lutter contre cette peur irrationnelle, Fred. Tu sais bien.
C'est une question de nombre. C'est simple. C'est une question de nombre. Très. Si c'est une famille par village, c'est génial. Si c'est plus de familles étrangères que de familles
étrangères, enfin.
Mais bon, tu le sais, alors. Ça
Voilà, attendez. Juste, je voudrais qu'on entende Nicolas. Logement. Il nous a appelé au 3216 depuis l'Isère. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Alors, Nicolas, vous vivez dans un petit village de 400 habitants. Est-ce que vous seriez pour, justement, l'accueil de réfugiés?
Alors, sur le principe, je suis pas contre. C'est juste que je trouve ça irréaliste. C'est totalement irréaliste. Nous qui vivons en ruralité, on a quand même des difficultés à trouver des logements, déjà. Parce que c'est pas facile de se loger en ruralité. On a globalement quand même du mal à trouver des emplois. Il faut travailler un travail. Et puis, il faut se déplacer. Moi, dans mon village, vous me mettez des migrants, ils vont bosser comment? Il n'y a pas de transport en commun. Ils ont besoin d'une voiture, ils ont besoin.
Il a raison, Nicolas.
Oui, mais ça.
Il y a un moment, on va pas leur offrir non plus des voitures. On va pas leur offrir. Il y a un problème global qui est qu'on. C'est un cache-misère, en fait. Comme ça déborde dans les grands centres urbains, on veut les mettre en zone rurale. Mais pour en faire quoi? Pour qu'ils soient au minimum, pour qu'ils soient tous au minimum sociaux.
C'est la question qu'on se pose, Nicolas. Après, ce que vous dites, c'est hyper intéressant qu'effectivement, à la campagne, si t'as pas de voiture, bah tu peux pas vivre. Ça, c'est sûr que. Rémi.
Oui, mais c'est pas le cas. On citait à l'instant le cas de Calac. C'est pas un projet. Le gouvernement, je l'espère, mais
Calac, c'est pas le RER.
Pour dire, on va mettre 10 migrants à tel endroit au pif. Le projet qui est établi à Calac, par exemple, il y a des logements vacants dans la commune, justement, la mairie le dit elle-même, qui soient réhabilités et. Ils ont obtenu des aides d'une fondation privée pour réhabiliter ces logements qui accueilleront ces migrants. Et il y a une pénurie de main-d'œuvre dans
Nicolas,
le village.
Non, mais ça,
donc les gens travailleront dans le village.
Ce que dit Nicolas, il te dit, grosso modo, que dans son village à lui, en tout cas, aux alentours, attends, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de logement, et si tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas vivre à la campagne. Et ça, c'est un fait.
Donc ça serait absurde. On est
pas dans ces lieux-là. Mais ce que dit Nicolas, c'est attends, tu vas leur offrir un logement, un travail et une voiture.
Mais ce ne sera pas dans ces lieux-là. Les lieux, ils sont choisis justement en fonction du maillage de transport, parce qu'il y a quand même des endroits où il y a des bus et des transports en commun locaux, des logements et de l'emploi. C'est pas non plus comme ça, on va mettre des gens à la campagne.
A priori, c'est ces villes où il y a du transport, des logements et de l'emploi, a priori, ces villes sont plutôt attrayantes et donc.
Premier exemple, Calac.
C'est-à-dire, si on ces villes n'ont pas besoin de réfugiés parce que les gens y sont déjà.
Mais non, justement.
Pas tous en même temps.
À Calac, le maire l'a dit lui-même, par exemple, dans la mécanique, il y avait un atelier auto, ça fait des mois et des mois qu'il n'y a personne pour répondre aux offres d'emploi.
Oui, mais parce que c'est des emplois que personne ne veut faire, Rémi.
Et ben donc, si les réfugiés font ces emplois-là,
s'il y a besoin de main-d'œuvre, il y a forcément effectivement un coût. Je répète, quand vous naissez en France, avant de pouvoir travailler, on vous a élevé, on vous a formé, enfin, il y a eu un coût. Je le dis de manière, avec tous les guillemets qui conviennent, mais il y a un investissement. Si on dit qu'on a besoin de main-d'œuvre, il faut effectivement un coût. Je fais une petite anecdote historique qui est très ancienne, mais qui je trouve est très, très amusante. Quand Saint-Louis revient de la première croisade, il revient avec quelques centaines de Syriens, d'Égyptiens, de Maures, comme on dit à l'époque, ils ne l'étaient pas, pour les installer en France. Ils se sont convertis. On est au Moyen-Âge, on est au XIIIe siècle. Et il a dit, il les a installés un peu partout en France, plutôt dans le Nord d'ailleurs, pour qu'ils puissent pas repartir. Et sur la caisse du roi, on leur a versé une pension jusqu'à leur mort. Les derniers sont morts au début du XIVe siècle.
Vous allez nous faire un cours d'histoire,
je dis juste, non, pas jusqu'à l'heure, mais je dis, c'est juste intéressant, c'est que Alors, c'était pour des raisons religieuses, mais oui. Quand on a voulu installer des gens et les intégrer, il a fallu effectivement y mettre un peu de moyens. Je cite cet exemple parce qu'il est tellement déconnecté de notre réalité, qui est évidemment pas transposable, la dimension religieuse est hors sujet. Mais si on a besoin de main-d'œuvre, qu'on doit la faire, ce qui est ma conviction, qu'on va faire venir de la main-d'œuvre immigrée, comme on l'a fait plus ou moins bien d'ailleurs il y a 50 ans, évidemment, il y a effectivement un peu de moyens. À partir du moment où les gens travaillent, ils vont être en capacité de s'assumer, mais au moment où ils arrivent, il y a la question effectivement du logement et de la mobilité, qui en zone rurale est évidemment cruciale, même quand c'est une zone rurale qui est pas très loin d'une grande ville. J'habite en zone rurale aussi, comme Nicolas, donc je vois très bien que si on plante des gens, c'est le cas de le dire, en zone rurale,
sans bagnole,
on les plante au milieu d'un champ, il peut rien se passer, et d'ailleurs, ça va être épouvantable. Exactement. Et ça va être un échec pour tout le monde, les personnes et le village en question.
Et après, tu peux comprendre aussi les gens comme Nicolas, qui, il est paysagiste, donc voilà, il fait un métier qui est pas facile, etc. Il paye son loyer, il paye sa voiture, il paye des impôts, et lui, il voit Nicolas, il se dit, attends, il y a des familles qui vont arriver, à qui on va payer effectivement, pourquoi pas une voiture, un logement.
Mais on va pas payer une voiture.
Et simplement, tu peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent, je comprends pas pourquoi.
Mais vous avez vu écrit où qu'on allait leur payer des voitures?
Non, mais c'est pas des voitures,
ville.
Si tu ne peux pas te déplacer, Thierry, à un moment, tu ne peux pas...
C'est pour ça que les lieux de cette expérimentation, parce que pour l'instant, c'est une expérimentation, sont choisis soigneusement, de façon à ce qu'un certain nombre de critères soient remplis, c'est-à-dire facilité de transport, logement vacant et emploi vacant. C'est quand même pas compliqué
d'accord,
à comprendre.
Mais ces réfugiés, évidemment, tu vas leur faciliter l'accession, et c'est bien normal, au permis de conduire, pour leur permettre quand même à un moment de pouvoir se déplacer. Et si tu veux, en fait, ce que dit Nicolas, c'est qu'il va y avoir des aides pour eux, que d'autres qui bossent aujourd'hui en France n'ont pas. C'est ça. Et tu peux comprendre ce point de vue, Thierry. Je te dis pas que c'est le tien, mais il y a ce point de vue, évidemment. Naturel. Et ça fait partie des réticences aujourd'hui que tu peux avoir.
Est-ce qu'on pourrait comprendre que les aides vont à ceux qui en ont besoin et que c'est pas un cadeau? Par exemple, on parle de mobilité. Il peut y avoir une démarche d'autopartage? Dans le temps que les personnes puissent commencer à travailler et les moyens de payer leur permis de conduire. Bien sûr. Prends cet exemple-là. Le logement, ils vont arriver, il faut au moins qu'ils travaillent un mois pour payer un loyer. Évidemment qu'ils peuvent pas arriver en payer. Enfin, pas tous. Certains viennent pas. Il y a pas, les immigrés sont pas.
Il y a des gens qui arrivent avec un métier, hein.
Beaucoup sont en grande précarité et très grande précarité. Soyez pas tous, faut faire attention là aussi.
Mais il y en a qui arrivent avec un métier.
Par contre, faut leur laisser le temps d'arriver et de se poser pour pouvoir rentrer dans une vie économique normale. Mais on peut trouver des dispositifs sans payer des voitures aux gens, par exemple. Parce qu'évidemment, j'entends.
Évidemment, ça c'est.
C'est ce que je viens
c'est
de
entendable.
Te dire. Merci. Notre invité sur ce débat, c'est Didier Lesky. Il est directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonjour Didier Lesky.
Bonjour.
Didier Lesky, est-ce que vous êtes agréablement surpris de voir le résultat de ce sondage? 52% des Français sont favorables à l'installation de réfugiés en zone rurale?
Écoutez, oui, enfin, je m'étais pas posé la question comme ça. Je pense que de toute façon, les personnes qui répondent, eh bien, n'ont pas encore sans doute en tête complètement ce qui se passe déjà aujourd'hui et ce qui pourrait être fait. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons déjà des orientations vers des zones multiples, en particulier rurales, des demandeurs d'asile. Mmh. Et que l'expérience que nous avons, le recul que nous avons, c'est que il est souvent plus facile de s'intégrer dans des petites communautés, dans des petites villes ou des villes moyennes, que dans des centres urbains qui sont déjà extrêmement saturés, en particulier où il y a des difficultés d'accès au logement. C'est le cas de la région parisienne, par exemple.
Et donc, quel recul vous avez justement, Didier Lesky, quand vous dites ça se passe bien, c'est-à-dire que ces réfugiés ont un emploi, les enfants vont à l'école?
Oui, alors d'abord, quand il y a des familles et qu'il y a une scolarisation, l'intégration est beaucoup plus rapide parce que les enfants sont un vecteur important de socialisation des personnes et des adultes. Mmh. Et par ailleurs, nous avons des zones en France, depuis quelques années déjà, et c'est une bonne chose, où il y a des problèmes d'emploi, de main-d'œuvre. Et je pense par exemple qu'il est beaucoup plus utile de former les personnes à remplir certains métiers que par exemple continuer ce que nous faisons. Et cette année, ça va être près de 15 000 personnes à partir de Maghreb, de faire venir des saisonniers pour remplir ces missions. Donc, du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui est sans doute à construire. Et il s'agit bien évidemment des personnes qui ont obtenu le statut de réfugiés, hein, entre 30 et 40 000 personnes tous les ans.
Et est-ce qu'il y a des jalousies, on va dire, je m'esterne entre guillemets, mais de la part des habitants qui sont implantés depuis longtemps dans ces villages?
Des jalousies de quel ordre? Parce que j'ai bien entendu votre débat, il ne s'agit pas de donner aux personnes des avantages sociaux que d'autres n'auraient pas. Je veux dire, il s'agit bien évidemment de les inscrire dans ce qu'on appelle le droit commun, et c'est ce que nous faisons. Voilà. Après, ça nécessite un accompagnement, mais je rappelle que l'accueil des personnes qui viennent dans le cadre de la ville, eh bien, s'accompagne d'une mobilisation et des crédits très importants auprès d'associations, et ça crée du reste dans des tas d'endroits, même de l'emploi local, hein, pour organiser les centres d'hébergement, par exemple, eh bien, il y a de l'emploi local qui se dégage. Donc, tout ça est une politique qui se pense par rapport à l'aménagement du territoire. Il s'agit pas de poser des gens ou de les enlever de quelque part pour les mettre ailleurs. Et par ailleurs, je terminerai par là, il y a un pays qui fait ça depuis des années, hein, et qui le fait de manière intelligente, et on l'a souvent montré en exemple, c'est l'Allemagne. En réalité, il s'agit de reprendre un modèle qui est déjà court dans un pays qui a, lui, beaucoup accueilli et qui a su, de cette manière-là, utiliser les personnes pour les besoins de l'économie en particulier. Ça ne veut pas dire que tout est simple, mais ça veut dire qu'on a plus intérêt à une répartition de la charge de l'accueil qu'à une concentration et à augmenter les ghettos et, comme le dit le président de la République, à accumuler la pauvreté sur la pauvreté.
Alors le plus réticent dans ce débat, c'est Fred Hermel. Est-ce que Didier Lesky vous a convaincu, Fred ?
Oui, c'est très intéressant, c'est très sensé ce que dit Didier Lesky. L'Allemagne, Angela Merkel, qui avait ouvert les bras, ils sont un peu revenus. Hein.
Elle les a refermés.
Oui, voilà. Ils ont un peu refermé. Aujourd'hui, l'Allemagne est beaucoup moins accueillante qu'elle le fut à un moment. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que dit Didier Lesky, et c'est la base de ma réflexion, c'est que s'il y a travail au bout, s'il y a travail, il n'y a aucun problème. Les gens peuvent accepter quand il y a du travail. Vous parlez des enfants à l'école, mais c'est génial. Moi, je viens de la campagne, de sauver des classes parce qu'il y a des enfants qui viennent, c'est merveilleux.
C'est le projet.
Le problème, c'est que les populations n'accepteront jamais des gens qui ne travaillent pas. C'est pas compliqué.
Mais ils t'acceptent ou pas s'ils sont là ?
Allô ? Je peux relater, par exemple, une expérience que nous menons depuis plusieurs années dans l'ouest de la France, en zone en réalité très rurale, où il y avait un problème de main-d'œuvre, et on a une mobilisation à la fois des salariés d'une entreprise qui collecte du lait et qui fait du fromage, permet l'intégration de réfugiés. Et donc, on a pensé la question des transports et même du logement et de l'hébergement. Ces salariés de l'entreprise ont trouvé un avantage, par exemple, en louant une partie de leur habitation, puisqu'ils ont très souvent, on peut avoir ça à la campagne, des parties d'habitation qui sont aménagées pour de la location de courte soit de longue durée, et puis une organisation des transports, et ça a permis à l'entreprise de répondre à des commandes auxquelles elle n'arrivait pas à répondre jusqu'à présent. C'est un peu de la dentelle, si vous voulez. On passe à quelque chose qui est très souvent de la dentelle et qu'il faut sans doute amplifier. Mais ça n'enlève pas cette idée que nous avons intérêt à maîtriser l'immigration. Et c'est tout l'enjeu. Je veux dire, il faut à la fois maîtriser l'immigration, et il y a une partie de l'immigration qui n'est pas admise sur le territoire, donc il faut donc la renvoyer.
C'est moins accueillir, mieux intégrer, quoi.
C'est pas une question d'accueil, puisque les réfugiés, il y a une obligation morale. C'est ceux qui obtiennent le statut lié.
Non, mais là, vous parlez de ceux qui étaient sans papier.
Oui, c'est pour ça que la question ne se pose pas de ventiler à travers la France des personnes qui n'ont pas de titre de séjour en France. Il s'agit de prendre en charge de manière intelligente ceux que nous avons acceptés, et parce que nous les avons d'une certaine manière choisis dans le cadre, par exemple, de la demande d'asile. Et c'est très différent. Et donc, je rappelle, par exemple, que quand nous avons fait le démantèlement de la lande de Calais, où il y avait des personnes qui pouvaient obtenir le statut de réfugié, il y a eu une orientation dans l'ensemble de la France. C'était en 2016, en février-mars 2016. On a eu, après les élections présidentielles de 2017, plus personne n'a parlé des Calaisiens, comme on disait. Et alors qu'à l'époque, des personnes, les mêmes qui aujourd'hui s'élèvent en disant « vous allez faire des choses catastrophiques », nous ont expliqué qu'on allait faire des Calais à travers la France. Non, il n'y a pas eu de Calais à travers la France, mais tout ça est compliqué, certes, parce que il y a les accueillis et les accueillants. Il faut à la fois accompagner tout le monde, rassurer, et avoir l'idée qu'on ne peut pas continuer à concentrer les personnes dans des zones urbaines pour créer des ghettos. Là, elles n'auront pas de travail, elles vont avoir des enfants qui vont s'insérer, malheureusement pour une partie d'entre eux, dans des trafics de drogue, et nous aurons des situations de plus en plus difficiles à gérer.
D'accord. Eh ben merci beaucoup Didier Lesky. En tout cas, vous êtes très très nombreux à nous appeler au 3216 pour nous raconter comment ça se passe chez vous à la campagne. Il y a Guy, tiens, justement, qui a accueilli un réfugié et qui travaille avec lui aujourd'hui. On a beaucoup de témoignages, donc on va continuer ce sujet juste après cette courte pause sur RMC. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. Et on continue à parler de ce sondage de l'Institut CSA qui révèle que 52% des Français, une courte majorité, donc sont favorables à l'installation d'étrangers en zone rurale. On a eu beaucoup d'appels au 32-16 et Rémi Barré, beaucoup de messages également sur l'application RMC.
Et ce message d'Olivier, par exemple, qui nous dit « Faux problème et matière pour Zemmour et autres Le Pen. Dans le Nord, Fred, ça va te parler. Chez mes grands-parents décédés de très longue date, j'ai toujours connu des familles de Yougoslaves et d'Italiens dans leur village de 300 habitants. 3-4 générations plus tard, ils font partie intégrante de la population à tous les niveaux d'emploi.
Ils venaient travailler dans les mines.
Responsabilité. Immigration par le travail.
Bah, et c'est exactement ce que je dis. Donc, c'est très bien. Bah oui. C'est exactement ça. Bah, donc, tu apportes de l'eau à mon moulin.
Et c'est le projet.
Eh ben, c'est magnifique dans ce cas-là. Si c'est travail ça, mais si c'est pour vivre à la campagne au RSA, ça va pas passer.
Non, mais c'est pas ça le projet. C'est de faire ça dans des endroits.
Je parle des limites de cette générosité.
Et on est bien d'accord.
C'est des donnants, du donnant. Donc, les Yougos, ben, moi, je veux dire, ou les Polonais, moi, je viens d'Arras, Lens, c'est à côté. Dans toutes les classes, il y avait des gamins avec des prénoms polonais. Et aujourd'hui, plus personne se demande s'ils étaient étrangers ou pas. Non, ils sont français.
On est avec Julien qui nous appelle de Cigogné en Indre-et-Loire. Julien qui est marchand de fonds de commerce. Bonjour Julien.
Oui, bonjour à tous.
Et
bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Vous vouliez réagir à notre débat qui s'est bien enflammé là durant les premières minutes de l'émission.
Oui, bah faut pas s'enflammer comme ça pour un tel sujet, sinon après ça ça pose un peu de polémique. Moi je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant précédent là qui fait partie d'une asso, je crois.
Didier Lesky.
Quand il évoque qu'il faut faire de la dentelle, c'est exactement ça. On peut pas considérer tous les territoires ruraux
De la même manière.
Ben, tout à fait. Selon que ce soit un territoire dynamique, selon la pression immobilière qu'on peut rencontrer aujourd'hui à la campagne, selon bien entendu effectivement les opportunités d'emploi. Moi, je vis sur un secteur qui est assez dynamique. Il y a beaucoup d'emplois. On l'a vu récemment avec des familles de réfugiés ukrainiens qui sont venus un petit peu qui sont venus chez nous. Tout se passe très bien, mais heureusement qu'il y a beaucoup de gens très dévoués qui passent leur journée à les emmener au travail.
Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc en fait, ils n'ont pas de véhicule et il faut mais ils travaillent et donc faut les emmener,
Au boulot. Ouais. Tout se passe très bien, mais on est quand même sur des territoires où malheureusement on n'a pas de transport en commun. Ouais. Donc bien entendu qu'il faut cibler exceptionnellement bien où est-ce qu'on va pouvoir installer des familles. Le but du jeu n'étant pas que les gens viennent pour finalement se ghettoiser à la campagne.
Évidemment,
Je pense qu'effectivement c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça fait, comme vous avez dit, des élèves pour les écoles.
Ouais.
Ça permet également, de remplacer une main-d'œuvre qu'on a plus spécialement dans certains territoires. Pour autant, il faut encore une fois que ça soit fait de façon, très intelligente. Et n'oublions pas que la campagne n'est pas une caricature. Les gens de la ville qui prennent des décisions sur la campagne, il faut quand même bien s'en méfier.
Oh, voilà. Merci, Julien.
La campagne, c'est pas une carte postale. Il y a des choses très bien, il y a des choses compliquées, mais tout peut très bien se passer. Sous réserve, bien entendu, que ça soit fait, encore une fois, en toute intelligence.
Julien, est-ce qu'il y a eu des réticences quand votre village a accueilli deux familles de réfugiés ukrainiens?
Bah, pas du tout. Mais ça, je pense que ça s'est passé un petit peu partout. C'était un peu la même chose. Il y avait un vrai élan de solidarité. Donc, bien entendu, que, au contraire, il y a plutôt une grosse mobilisation. Moi, j'ai même des gens autour de moi qui sont allés à la frontière polonaise pour aller chercher des réfugiés, vous voyez. Donc, on leur trouve des logements, on fait en sorte de les intégrer avec du travail. Pour autant, ça demande beaucoup de temps. Il faut que les gens soient encore une fois dévoués pour les emmener trouver du boulot. Après, tout se passe très bien. Tout se passe très très bien. Mais il faut des moyens, il faut des logements vacants, il faut des territoires dynamiques. Encore une fois, n'oubliez pas, la pression immobilière aujourd'hui sur les territoires de campagne, elle est quand même très très forte.
Et oui.
Des logements vacants, il n'y en a pas beaucoup, ou alors il y en a beaucoup, mais au fin fond des territoires qui sont un petit peu...
Quand les territoires sont dynamiques, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de logements vacants.
Pas de logements vacants, alors il y a du boulot, d'accord, mais il n'y a pas de logements vacants. L'essence, ça coûte cher, il faut une voiture.
Exactement.
Du boulot, il y en a, mais c'est à 15 km. Tout peut très bien, encore une fois, parfaitement se passer. Mais ça demande beaucoup d'investissement. Il faut des assos, il faut des municipalités, il faut des habitants.
Ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. C'est ce que vous voulez nous dire. Mais merci beaucoup, Julien, en tout cas, pour ce témoignage, parce que c'était extrêmement intéressant. Alors, les réfugiés, on se dit quand même que c'est, a priori, ça a vocation à être un hébergement, entre guillemets, de courte durée, Pierre-Édouard Magnan, parce qu'on peut, penser qu'ils ont envie quand même de rentrer chez eux. Et, les Ukrainiens, on imagine que la guerre, enfin, on l'espère, en tout cas, va se terminer. Et qui pourront rester chez eux. Leur idée, c'est pas de rester en France, ad vitam aeternam.
Tout à fait. Je suis proche d'un groupe de gens qui ont organisé un accueil ukrainien, qui ont également monté un car pour aller chercher les Ukrainiens, etc. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont ramené de mémoire une quinzaine de familles. Aujourd'hui, il y en a 12 qui sont déjà repartis parce qu'ils étaient plutôt sur Kiev et sur l'Ouest. Et du coup, ils sont repartis chez eux parce que leur but était évidemment de rentrer. Beaucoup de gens souhaitent rentrer chez eux. Et en plus, bon, en Ukraine, dans l'Ouest, c'est un pays en guerre, mais c'est toujours un pays qui n'est plus totalement. Enfin, je veux dire que tout le pays n'est pas un théâtre de guerre, même si la menace est toujours là. Et donc, l'activité peut reprendre. En plus, c'est compliqué parce que la langue ukrainienne n'est pas une langue spontanément francophone.
Ils parlent peu français, quoi, mais
c'est pas simple. On n'est pas tous le premier des anglophones pratiquants. Donc, en plus, la langue est toujours quelque chose, évidemment, de compliqué. Quand les gens viennent, du Maghreb ou d'Afrique noire, alors c'est des immigrés qu'on aime moins, mais eux, en général, le problème de la langue, une partie de l'Afrique noire.
Qu'on aime moins.
Regardez bien, moi, j'ai entendu à plusieurs fois, y compris des municipalités ou des gens, quand il s'agissait d'accueillir des Ukrainiens, l'Ukrainien, il n'y avait pas de problème. Et par contre, on parlait de gens qui, politiquement, ne souhaitaient absolument pas accueillir des immigrés. Mais l'Ukrainien, lui, est un réfugié. Je vais le dire méchant, mais l'Araboule noir, c'est un immigré. Les mots ont leur sens, c'est pas neutre. Après, il y a aussi des raisons objectives. Les questions de culture. Rappelais que les Italiens, les Polonais, par exemple, dans les années 30, ça a été extrêmement violent. Il est évident que le gap culturel, la marche culturelle est évidemment plus simple à franchir entre des populations italiennes et des populations françaises qu'entre des populations d'Afrique noire ou des populations du Maghreb avec population. Ça, c'est une évidence objective, c'est pas, voilà. Mais cela dit, le besoin d'immigrer, après tout, on parlait des médecins, mais là, ça fait toujours, tout le monde dit toujours oui. Les médecins d'où ils viennent. Après, si ça n'a pas bougé, je crois que c'est une anecdote que j'avais entendue, mais que je trouve très, très bonne. La ville du monde où il y a le plus de radiologues béninois, c'est Paris.
C'est ça. Oui, bon, écoutez. On est avec Guy qui nous appelle de la Farlède dans le Var. Bonjour Guy.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. J'écoute tous vos invités, là, et les intervenants. C'est très intéressant ce qui est dit.
Merci.
Moi, je pense une chose, je pense que c'est un petit peu différent ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que personnellement, moi, je m'occupe de migrants, mais je les ai pris, si vous voulez, en charge, carrément.
C'est-à-dire ?
Donc, c'est-à-dire que bon, j'ai eu un petit jeune il y a 6 ans, j'ai pris en charge. Je m'en suis occupé, je l'ai formé, j'étais indépendant jusqu'alors. Bon, ben là, maintenant, je suis à la retraite, j'étais indépendant. Je l'ai gardé 4 ans et demi avec moi. J'ai même fait une année de plus parce que je cherchais quelqu'un pour qu'il soit bien pris en charge par la personne.
Juste Guy, le début. C'est-à-dire qu'il avait quel âge, le garçon, et comment vous l'avez trouvé ?
Il avait 16 ans. Je l'ai rencontré, c'est une de mes clientes qui m'a demandé un service. Elle m'a dit, est-ce que vous pourriez me rendre un service? Je lui ai dit oui. Et elle me dit, voilà, je m'occupe de migrants. Alors, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que vous allez me proposer? Donc, elle m'a présenté ce jeune. Alors, moi, j'ai été carré avec lui. Voilà. Parce que j'entends dire beaucoup de choses, mais vous savez.
Il est de quel pays, Guy?
Il est de Côte d'Ivoire.
D'accord.
Alors, on parle de beaucoup de choses, mais on a des personnes déjà ici. Et on fait une erreur quand des gens qui étaient plus ou moins intégrés, qui sont désintégrés maintenant, c'est ce que je dirais. Et les personnes, il faut avoir des exigences avec. Moi, quand il est arrivé, j'ai eu des exigences envers lui. C'est-à-dire, je lui ai dit, voilà, moi, tu vois, l'âge que tu as, tu vas travailler avec des papas. J'avais du personnel, donc je lui ai dit, tous les gens qui sont là, ce sont des papas. Tout le monde te respectera. Tout le monde te fera faire des choses intéressantes, parce qu'on n'a pas pris pour faire passer le balai. On lui a appris des choses, on lui donnait des missions à faire.
Parce que vous êtes dans le BTP.
On s'en est occupé. Tous les gars qui étaient là m'ont dit, il est formidable, on a eu des tas de jeunes. Génial. Jamais un comme ça. Voilà. Et donc, ce gamin, je lui ai dit, tu sais, tu ne pourras t'élever que parce que tu voudras t'élever. Si c'est pour faire la même chose que font la plupart des gens, c'est pas intéressant pour toi. Si tu veux t'élever, tu t'élèveras. Et ce gamin, il s'est élevé. Il s'est levé à 22 ans.
Il est toujours avec vous?
Parce que il est, là, j'ai passé la matinée avec lui parce qu'en ce moment, il est en congé. Donc, on a discuté, tout. On est resté en très bonne relation.
Ah, il est resté, c'est génial.
Il s'est élevé. Bon, je lui ai aidé à, parce que bon, les associations, ça me fait doucement rigoler parce qu'il faut voir comment ils se sont occupés de lui. Quand il a fallu qu'il trouve un appartement et tout, c'était très compliqué. Je leur ai dit, écoutez, maintenant, il est logé par la collectivité. Vous attendez un petit peu. Je vais avoir un appartement qui va se libérer. Je le mettrai dedans. C'est ce que j'ai fait. Ça se passe très bien. Il entretient. Je lui ai expliqué. Je lui ai donné un appartement tout propre. Et je lui ai dit, le but, c'est qu'un jour, tu me dises, je veux un appartement plus grand parce que j'ai développé ma vie. Voilà. Là, c'est ce qu'il veut en ce moment. Il attend parce que je vais avoir un autre appartement qui va se libérer. Donc, l'appartement, il est tenu impeccable. Je lui ai dit, tu sais, tu peux faire... c'est une chose très importante. Il faut essayer de t'élever. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas d'exigence, et ça a marché, et tant qu'on n'aura pas d'exigence avec les gens qui arrivent, eh bien, on sera dans la situation dans laquelle on est.
Parce que, en fait, c'est ce que disait l'auditeur précédent aussi, c'est parce que vous donnez aussi du temps. Voilà, c'est quelque chose, il faut accompagner les gens. Si vous les laissez tout seuls dans la nature, ça ne peut pas marcher. Et c'est ce qu'a fait Guy avec ce jeune qui, d'ailleurs, est resté. Mais c'est compliqué d'avoir un employeur pour chaque personne qui arriverait. Évidemment, ce serait l'idéal, mais...
C'est pour ça que le mot essentiel dans tout ce qui a été dit, et ça a été dit par le président de l'association, c'est la dentelle. C'est-à-dire que chaque cas est particulier. Ce que raconte Guy, c'est une formidable histoire particulière. Il y a sans doute aussi des histoires qui vont mal se passer et il faut en tirer les conséquences. Ce que dit Julien aussi, c'est tout à fait vrai. On ne mettra pas n'importe où comme ça planter quelqu'un dans un endroit où il n'y a pas de transport, où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas de logement, par exemple. Donc effectivement, le mot le plus important, c'est le cas particulier, la dentelle.
Alors en tout cas on va remercier en tout cas Guy pour ce témoignage. Guy qui nous appelait de la Farlède, dans le Var. Merci beaucoup Guy d'avoir été avec nous. Alors on a fait un sondage nous aussi de notre côté sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Accueillir des étrangers en zone rurale, vous êtes pour, vous êtes contre? Rémi Barré.
C'est loin de susciter l'enthousiasme mais c'est peu de le dire. 78% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux sont contre cette idée.
Et il y a eu beaucoup de messages sur ce
de nombreux messages sur l'application reste en lien court. Vous êtes difficile à joindre, nous dit Bernard.
Très
nombreux appels. N'y a-t-il pas déjà des gens au chômage et qui se plaignent des nuisances dans certains quartiers alors que ce n'est pas de leur faute? Peut-être faudrait-il, quand il y a des manques de main-d'œuvre, des pénuries dans certains milieux ruraux, revaloriser ces emplois.
Voilà, mais c'est vrai qu'après, il faut déplacer aussi des familles, ça se fait pas tout seul. Quand il y a une famille qui a vécu depuis 30 ans en région parisienne, elle est déplacée à la campagne, ça se fait pas tout seul non plus. C'est évident.
Personne ne se déplace si facilement que ça. C'est pas facile de se déplacer.
Non. Exactement.
Qui qu'on soit et d'où qu'on vienne.
Dans un instant, Anthony Morel, tiens, il va nous parler des éoliennes. On en parle beaucoup, des éoliennes. Eh bien, elles ont le vent en poupe.
Je vais adorer ça, moi.
Oui, je pense que ça va être votre truc. Et puis, à 13h, tiens, ça aussi, vous allez adorer. Les trottinettes électriques interdites.
Oh là là, c'est ma journée.
Interdites au moins de 18 ans à Lyon. Est-ce qu'il faut faire la même chose en France? On attend vos avis sur ce sujet. Ce sera vers 13h. On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 49, vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est le moment de parler nouvelles technologies avec Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et alors Anthony, on va parler d'actualité, et l'actualité, tout le monde en parle aujourd'hui, ce sont les éoliennes marines.
Les éoliennes en mer, oui, il y a Emmanuel Macron qui fait une visite à Saint-Nazaire, premier parc d'éoliennes offshore installé qui doit normalement générer suffisamment d'électricité pour, on va dire, compenser 20% de la consommation de la Loire-Atlantique. Donc voilà, c'est un premier pas, et c'est un exemple, mais parmi plein d'autres, de ce qu'on appelle les énergies marines renouvelables qui présentent un potentiel assez dingue. Parce que les éoliennes marines, le problème, et c'est tout le débat, c'est est-ce que ça gâche la vue, le paysage, le littoral? Moi, je viens de cette région-là en plus, donc je vois bien de
la
quoi...
biodiversité.
Et voilà, il y a aussi ce sujet-là. Alors, la solution pour la visibilité, c'est les hydroliennes. Vous connaissez les hydroliennes? C'est comme une éolienne en mer, mais c'est sous l'eau, voilà, et cachée. Voilà.
Après, les éoliennes en mer, elles ne se voient pas non plus énormément.
Elles se voient un petit peu.
Ça dépend des endroits.
Non, mais alors le truc, les hydroliennes, on ne les voit plus du tout parce qu'elles sont carrément sous l'eau. Alors vous allez me dire, sous l'eau, il n'y a pas de vent. Non, mais on va utiliser en fait la puissance des courants marins qui sont très puissants à certains endroits.
Ça
ne va
pas être très bon pour les poissons, ça.
Ah, ben alors attends, ça dépend où on les place.
Ah oui, la même chose. Ça dépend.
Oui, mais bon, il faut bien trouver des solutions de toute façon. Donc ces hydroliennes, elles vont
capter les courants sous-marins, les transformer en électricité. Elles ont deux avantages. Un, on ne les voit pas. Et deux, l'énergie des courants marins, elle est beaucoup plus facilement contrôlable. On peut la prédire beaucoup plus facilement que le vent.
Elle ne s'arrête pas.
Elle ne s'arrête pas, exactement. Donc c'est ça qui est très intéressant. Alors il y a plein de projets. On peut citer une start-up française qui s'appelle Sabella. Dans le Finistère, il y a beaucoup de, il y a des courants assez costauds. Hein, et notamment, ils veulent alimenter l'île d'Ouessant comme ça. Ils ont fait un certain nombre de tests pour pouvoir eh bien, alimenter en énergie certaines îles grâce à ces hydroliennes. Donc ça, c'est un premier exemple.
Alors on a les éoliennes en mer, les éoliennes sous l'eau, mais il y a d'autres éoliennes.
Alors il y a plein d'autres choses. Par exemple, une alternative très intéressante, c'est l'énergie houlomotrice. Houlomotrice, c'est on va en fait exploiter la puissance des vagues. C'est-à-dire qu'on va installer une structure, alors ce sont des structures flottantes qui font à peu près 20 mètres de long, un peu comme un grand serpent qu'on va poser à la surface de l'eau. Et ce grand serpent, eh bien, il va capter la puissance de la houle et il va la transformer en électricité. Et cette électricité, on va pouvoir s'en servir, alors par exemple pour alimenter des plateformes pétrolières offshore.
C'est au large.
Alors c'est au large, ça peut. Non, mais par exemple pour alimenter des îles qui sont un petit peu isolées, qui utilisent aujourd'hui des générateurs diesel qui consomment beaucoup, eh bien, on va pouvoir se servir de l'énergie des vagues et la rapatrier jusqu'à ces îles. Donc ça, c'est très intéressant. Deuxième exemple, on va apprendre un mot ensemble, l'énergie osmotique. Osmotique, c'est quoi ? C'est l'énergie qui est générée quand l'eau salée rencontre l'eau douce. À l'estuaire des fleuves, il y a une différence de salinité qui fait que, eh bien, on peut générer à partir de ça de l'électricité. C'est assez dingue. On crée des membranes spéciales, en fait, et on va pouvoir, à l'estuaire de chaque fleuve, potentiellement, eh bien, générer énormément d'électricité, en fait.
Alors, tout ça, c'est bien joli sur le papier, mais la question cruciale, c'est quelle production on peut espérer ? Est-ce que ça produit beaucoup ?
Alors, si on prend le potentiel total théorique, et le mot important, c'est théorique, dans le monde, selon l'Agence internationale de l'énergie, on est, pour toutes les énergies marines renouvelables, entre 20 et 90 000 TWh par an. Pour avoir un élément de comparaison, la consommation électrique mondiale, c'est 20 000 TWh par an. Donc on peut potentiellement, bah oui, on pourrait potentiellement compenser la totalité de la consommation électrique mondiale. Sauf que, encore une fois, c'est théorique, tout ça sur le papier, c'est très bien. Par exemple, les hydroliennes, c'est compliqué à installer. Effectivement, on peut pas les mettre n'importe où, il y a des zones de pêche. Ensuite, la durabilité des matériaux quand ils sont sous l'eau, soumis à des courants, avec du sel, des coquillages et des algues, forcément, ça va pas non plus durer 50 ans. Donc il y a toutes ces questions-là à prendre en compte. Mais la France a une énorme carte à jouer. Vous savez qu'on a la deuxième surface maritime mondiale. Hein, grâce au Dom-Tom, grâce à la Polynésie française, grâce à la Nouvelle-Calédonie. Donc, énorme carte à jouer. Et d'autant qu'on a aussi un très grand savoir-faire et une expertise en matière de recherche. Il y a beaucoup d'universités, notamment je pense à l'Université de Nantes, avec des masters spécialisés en énergie marine renouvelable. Donc, on a vraiment un coup à jouer. Et en ce moment, je peux dire, on ne peut pas faire la fine bouche. Tout est bon à prendre pour augmenter la production énergétique. On ne dit pas qu'on va remplacer le nucléaire ou quoi que ce soit. Ça va venir augmenter encore une fois et améliorer notre mix énergétique global.
Alors on a un anti-éolien sur le plateau, c'est Fred Hermel. Est-ce que tout est bon à prendre pour améliorer notre production énergétique, Fred ?
Non, parce que je vois, c'est très intéressant d'un point de vue technologique, et moi j'adore la chronique d'Anthony, on apprend plein de choses, etc. Mais ça va coûter combien ? L'investissement paraît tellement dingue par rapport à ce qu'on pourrait faire.
C'est des entreprises françaises, ça fait marcher nos industries.
Il faut penser au retour sur investissement.
Mais oui, mais dans combien de temps ? Et on sait très bien que...
Ça s'appelle recherche et développement. Donc il y a un coût au départ.
Mais moi je vais vous dire, tout simplement, parce qu'il y a un sujet, une technologie qu'on maîtrise très bien et qu'on a laissé tomber, qui s'appelle le nucléaire. Je sais, je le répète.
Ça ne suffira pas.
Tout cet argent qu'on investit là-dedans, sans trop savoir comment ça va marcher, on ferait mieux de le mettre dans le nucléaire.
L'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre.
Les déchets, parce que les déchets, là, qu'est-ce qu'on va faire des éoliennes, des déchets ça en fait de la ferraille. Hein.
L'un n'empêche pas
la ferraille. C'est de la ferraille que l'uranium quand même. Le fer est plus facile à recycler.
Ah non, l'uranium c'est très bien. Non, non.
Sauf que dans les générateurs de phase 4, on utilisera les déchets pour produire de l'énergie. Mais là aussi, c'est dans un certain temps. Et là aussi, ça demande de l'investissement. Et là aussi, de la technologie. L'un ne va pas sans l'autre.
Surtout, il ne faut pas opposer.
Exactement.
Ça n'empêche pas que le nucléaire aura une part très importante dans le mix énergétique.
Ça,
ça, ça vient renforcer le tout.
Ouais. Anthony Morel, est-ce que vous avez une trottinette électrique ?
Ah non, alors là, jamais de la vie.
Il est bien ce garçon.
Vous rigolez ou quoi ?
Je sais pas, vous avez une tête à avoir une trottinette électrique.
Bon, bah, non, merci, je le prends pas bien.
J'étais sûr que vous allez me dire oui.
Ah, mais non, mais c'est
ça m'aura arrangé d'ailleurs. Je vous dis ça parce que à Lyon, les trottinettes électriques vont être interdites au moins de 18 ans. Est-ce qu'il faut faire la même chose partout en France ? C'est la question qu'on vous pose. Et on attend bien sûr toutes vos réactions au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, Estelle Midi.